On va continuer notre réflexion sur le livre de Ruth. Et nous allons rester toujours sur ces deux premiers chapitres, sur ces deux premiers versets du premier chapitre. Nous avions vu la dernière fois l'origine de la famine et l'origine des famines qui sont susceptibles de jaillir dans notre vie. Nous avions vu que pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, eh bien, la famine, le temps de famine pouvait être ce temps où nous n'entendions plus la voix de Dieu, où il nous semblait que les bénédictions, eh bien, ne venaient plus, où nos prières ne passaient plus le plafond. Nous avions dit que la famine, c'était le temps où, finalement, les circonstances extérieures, eh bien, venaient amoindrir notre foi, venaient prendre le dessus sur notre foi. Et nous avions vu que, eh bien, dans ces temps-là, eh bien, la grâce de Dieu restait et demeurait là. Maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est notre attitude dans la famine. Vous savez que la famine est un temps de tentation, puisque c'est un temps d'affaiblissement. On se souvient que Jésus, notamment, eh bien, a été tenté, à quel moment? Après qu'il ait jeûné 40 jours dans le désert. Là, il a connu la solitude, il a connu la faim, la soif. Et c'est à ce moment-là que le diable est venu et que Jésus a été tenté par trois fois. Nous connaissons bien ce passage. Et nous savons que dans nos temps de famine, étant donné que nous sommes affaiblis, c'est là qu'il faut rester encore plus vigilant, mettre des garde-fous qui soient encore plus efficaces, de manière à ce que le tentateur ne vienne pas dans notre cœur, ne vienne pas dans notre vie. Le temps de famine n'est pas un péché, hein, mais le temps de famine est un état dans lequel eh bien, nous devons apprendre à vivre, comme je le dira l'apôtre Paul, j'ai appris à vivre eh bien, dans l'abondance, comme eh bien, dans le manque. Et je pense que ça doit être également notre cas. Enfin bref, j'ai commencé mon introduction, on va remis de lire le passage. Hein. Donc, livre de Ruth, chapitre 1er, les deux premiers versets, au temps du gouvernement des juges, donc là, on a vu, c'est le contexte historique qui est posé, un temps noir, hein, un temps difficile, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses deux fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Amen. Voici que, donc, Élimélec prend la décision, puisqu'il manque du pain dans la maison du pain, qui est Bethléem, de partir, eh bien, vivre à Moab. Et le titre de ma réflexion de ce soir, c'est mon attitude devant la tentation qui peut surgir dans la famine. Je crois que plusieurs tentations peuvent surgir alors que nous sommes en position de faiblesse. Plusieurs tentations peuvent arriver. La première de ces tentations, c'est la tentation de la facilité. Moab n'était qu'à 80 km de Bethléem. Donc ce n'était rien, surtout pour les grands marcheurs qui étaient les Israélites à cette époque-là. Et cela nous fait dire que parfois la frontière entre l'état de disciple sauvé par grâce et l'état d'homme condamné perdant la grâce est parfois extrêmement mince. Il est facile de tomber, il est facile de chuter, il est facile de passer de Bethléem à Moab. Ce n'est pas compliqué et c'est pour cela que l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens ce verset que j'aime tout particulièrement, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Voyez-vous, notre vie chrétienne n'est pas simple et durant les temps de famine, il est facile de basculer de l'autre côté. Et pour Élimélec, c'était plus simple, c'était plus commode, c'était plus aisé de faire vivre sa famille à Moab où il y avait du pain plutôt qu'à Bethléem où il en manquait. Tout cela, comme application spirituelle pour notre vie, c'est de dire que finalement, il faut se méfier parfois de ce qui est trop facile. Il faut se méfier de ce qui est trop simple. Surtout lorsque cela nous conduit en Moab, ou surtout lorsque cela nous conduit en Égypte. Prenez l'exemple de Lot et d'Abraham. Aussi qu'ils sont sur la montagne, il y a eu ce conflit entre les deux troupeaux, entre les bergers, pardon, des deux hommes. Et puis, donc, un choix doit être fait. Ils ne peuvent plus cohabiter, ne peuvent plus vivre ensemble. Et Abraham, qui est pourtant le plus vieux, donc c'est à lui que revenait le choix, va dire à son neveu, « Bien, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, vas-y, choisis. » Et devant Lot, il y avait la plaine verdoyante où se trouvaient Sodome et Gomorre. Et là, ses yeux vont se poser. C'était beaucoup plus facile pour Lot d'aller faire fructifier son troupeau, d'aller faire fructifier ses richesses, dans la plaine verdoyante alors que derrière lui s'élevait la montagne. Et nous connaissons tous la fin du récit, puisque à Sodome et à Gomorre, eh bien, Lot va quasiment tout perdre. Il va perdre ses beaux-fils, il va perdre ses richesses, il va perdre sa femme qui va être transformée en statue de sel. Tandis que pendant ce temps-là, Abraham, qui n'avait pas choisi la facilité, eh bien, va connaître l'alliance avec Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons veiller à ce que eh bien, les choses ne soient pas trop faciles, nous méfier des choses faciles, parce qu'elles peuvent être un piège, surtout lorsqu'elles nous ramènent à Moab. Et la seule chose qui nous sépare de Moab, la frontière, elle se tient dans la communion avec Dieu. Elle se tient dans notre volonté. Je resterai dans la maison du pain. Je resterai dans la maison du pain. Je resterai dans la présence de Dieu. Quel que soit l'état, quel que soit l'état de l'Église, quel que soit l'état de ma foi, quelle que soit ma relation avec Dieu, je resterai et je demeurerai. Parce que je sais et que mon Dieu ne veut pas que je vive dans une position de famine. Je sais que mon Dieu ne veut pas que j'évolue dans une position de famine. Et je sais que mon Dieu est ce Père qui prendra toujours soin de moi. Et que si aujourd'hui je passe par des moments difficiles, même si aujourd'hui je passe par des moments compliqués, même si aujourd'hui ma foi est en crise, même si aujourd'hui je ne vois pas les bénédictions que j'attends, eh bien je resterai dans la maison du pain. Je ne céderai pas à la facilité. Je ne céderai pas. Il est plus facile de quitter les voies de Dieu, de vivre finalement selon le courant de ce monde, plutôt que de remonter à contre-courant. À une époque, je faisais énormément de kayak, hein, et je préférais largement descendre que remonter, surtout en eau vive. Et dans la vie chrétienne, on est bien souvent des saumons. On passe notre temps à remonter à contre-courant, pour remonter jusqu'aux sources de Dieu. Et je crois que c'est nécessaire. Il ne faut pas cesser de vivre dans cette conviction, je resterai dans la maison du pain. Je resterai dans la maison du pain. Même si le pain semble manquer, je resterai et je demeurerai toujours dans la maison du pain. Deuxième tentation qui vient dans la famine, c'est la tentation de la sécurité. Comment est-ce que je vais nourrir ma famille, devait se dire Elimelec. Comment est-ce que je vais faire? Il n'y a plus de blé, il n'y a plus moyen de travailler. Comment est-ce que je vais faire? Ben voilà, il y a Moab. Là-bas, il semble y avoir tout ce qu'il faut en abondance. Eh bien, je vais y aller. Je serai en sécurité. Je n'aurai plus à me casser la tête. Je n'aurai plus à être inquiet. Finalement, là-bas, les choses seront totalement aplanies. On n'aime pas vivre en position d'insécurité. On n'aime pas être fragilisé. On n'aime pas d'être dans cette position de savoir qu'est-ce que va être demain. On aime bien planifier. On aime bien que tout soit carré. On aime bien que tout soit propre. On aime savoir, on n'aime pas l'imprévu. C'est vrai. On a tous des jeunes là, etc. Et finalement, bon, quand on se retrouve dans cette position de se dire, ben, je vais aller là, mais ou alors je vais rester là, plutôt en l'occurrence, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'en tirer. Voilà. Je suis dans cette position, dans ma vie de famille, je suis dans cette position, dans mon couple, là ça va pas, c'est difficile, c'est peut-être, voilà, mais je vais rester là, je vais rester en position, je vais rester, je veux demeurer, même si je ne sais pas comment la situation va évoluer, même si c'est plus compliqué, mais j'accepte de me mettre en insécurité, et de ce fait, j'accepte de faire confiance à Dieu finalement. En disant, ben, Seigneur, moi, je me sens mal à l'aise, je me sens en position de faiblesse, je ne sais pas exactement comment les choses vont rester, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, Seigneur, eh bien, j'accepte d'être en insécurité si c'est pour rester avec toi. Parce que je sais que eh bien, ma vie, elle est bien plus en sécurité lorsque je suis dans ta main que lorsque c'est moi qui la tiens. Elle est bien plus forte lorsque c'est toi qui diriges les choses et qui commandes, même dans le noir, plutôt que lorsque c'est moi qui éclaire avec ma propre bougie. Seigneur, tu es la lumière du monde et je ne veux pas avancer avec mes bougies, mais je veux avancer véritablement avec ta parole, je veux avancer avec tes principes. Et j'accepte eh bien, de demeurer dans l'insécurité. J'accepte de demeurer dans cet endroit où je ne suis pas à l'aise, où je ne sais pas exactement ce que je vais devenir, où je ne sais pas exactement ce que je vais faire. J'accepte de le faire en te faisant confiance. On se souvient de la tsunamite, qui n'a pas voulu, vous en souvenez, Autrement, je refais l'étude sur le Cantique des Cantiques, ça sera pratique. Qui n'a pas voulu, dans le chapitre 2, sortir de sa maison. Qui n'a pas voulu quitter sa zone de sécurité. Elle aimait Dieu. Elle aimait Jésus de tout son cœur. Elle aimait toutes les bénédictions que Jésus pouvait lui apporter. Elle aimait les pommes du pommier, l'ombre qu'elle avait auprès des arbres, etc. Elle l'aimait. Mais lorsque Jésus est venu frapper à la porte eh bien, de sa maison, il lui a dit, « Allez ma fille, maintenant il faut que tu me suives sur les montagnes. Il faut que tu vives ta propre vie. Il faut que tu fasses ton acte de foi. » Là, elle a dit, « Niette, reviens plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Je ne suis pas prête. C'est pas le moment. Je ne suis pas prête. Je ne veux pas sortir de mon petit confort. » La vie avec Jésus nécessite de se mettre en insécurité. Les disciples ont quitté l'entreprise familiale afin de suivre Jésus pendant 3 ans et demi. Moïse a renoncé à la gloire de Pharaon qui lui était promise afin eh bien, de rentrer dans les plans de Dieu, afin de répondre à l'appel qui bouillait déjà dans son cœur. N'ayons pas peur de l'insécurité. Oui, si nous témoignons, nous nous mettons en insécurité. Quelle va être la réaction de ceux à qui je vais parler? Oui, si nous investissons, quelles vont être les conséquences de notre investissement? Oui, si eh bien, j'accepte de faire ce que Dieu me demande, et si tu acceptes de faire ce que Dieu te demande, tu seras en position d'insécurité. Tu dépendras de Dieu. Tu dépendras de Dieu. Si nous vivions cette folie de la foi, nous sommes dans le pays des cartes, on le sait bien. On rationalise, on pèse, on sous-pèse, on calcule. Voilà. Beaucoup de choses se passent là-dedans. Mais si d'autres choses se passaient dans notre cœur, si on devenait un petit peu fou, si nous redevenions un petit peu fou, en nous disant, mais Seigneur, j'accepte de me mettre en danger, parce que tu me le demandes. Non pas pour jouer les matamores, non pas parce que j'en ai envie, mais Seigneur, parce que tu me le demandes. Sur ta parole, comme dira l'apôtre Pierre, je jetterai le filet. Sur ta parole, j'accepterai l'insécurité. Je préfère être en insécurité dans la présence de Dieu, dans le salut de Dieu, plutôt que de vivre une sécurité hypothétique à Moab. Et nous verrons ce qu'est Moab tout à l'heure. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide à vivre et m'aide, parce que je suis dans le même cas que vous, à vivre cette insécurité de la foi. Cette dépendance à Jésus, cette dépendance à mon Dieu. Il serait plus facile de partir. Tu te sentirais plus en sécurité ailleurs. Mais sache que c'est dans la maison du pain que se déroulent les choses. C'est dans la maison de ton Dieu que se déroulent les choses. Et c'est là que tu es réellement en sécurité. Troisième tentation, c'est la tentation de la logique humaine. Humainement parlant, le calcul d'Élimélec était juste. Il valait mieux emmener sa famille en Moab pour la faire vivre plutôt que de la laisser à Jérusalem. C'était logique. C'était normal. Bien vu, Élimélec. Le calcul est bon. Et spirituellement parlant, ça tenait pas la route. Pour quelle raison? Nous le verrons tout à l'heure parce que Moab était un peuple qui, entre guillemets, était maudit. Et l'Israélite n'avait pas à côtoyer, ni même à envisager de le faire, le peuple de Moab, qui avait eh bien, fait des choses totalement abjectes. Donc, humainement parlant, voilà, c'était bien. Spirituellement parlant, c'était à côté de la plaque. On peut avoir de bonnes intentions. Mais finalement, se tromper parce que ses intentions ne sont pas dans la mentalité, ne sont pas dans le plan de Dieu. Quelques exemples qui me sont venus à l'esprit. Jacques et Jean, ils ont eu une bonne intention. Raser le village, de prier Dieu afin que le feu du ciel tombe sur le village des Samaritains. C'était une intention louable, étant donné l'amour que les Israélites vouaient aux Samaritains en cette époque-là. Mais Jésus va leur dire non. C'est pas ça que je veux. Et quelques temps plus tard, dans les Actes des Apôtres, c'est même Jacques et Jean seront envoyés dans les villages de Samarie et ils prieront pour qu'un autre feu tombe Mais là, eh bien, c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui va tomber dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. On peut également penser à Jephté. Vous connaissez celui-là? Qui c'était? Qui était-ce? C'était un juge, hein, un des juges. Et Jephté va faire un vœu parfois bizarre à Dieu. Il va faire un vœu bizarre à Dieu. Il va lui dire, voilà, si tu me donnes la victoire totale sur les Ammonites, eh bien, si quelqu'un sort au-devant moi de ma maison, je la tuerai. Je l'offrirai en quelque sorte en sacrifice. Pleine tension est peut-être louable, mais un, Dieu ne lui avait jamais demandé, et deux, c'est pas dans la mentalité de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir la victoire totale sur les Ammonites. Et qui va être la personne à sortir de sa maison? Sa fille. Et là encore, Dieu ne va pas lui demander d'accomplir son vœu. Mais Jephté va être tenu par sa langue et il va devoir le faire. L'intention pouvait être bonne, mais elle était humainement parlant. Mais spirituellement, elle ne l'était pas. On peut parfois vouloir faire des belles choses, mais est-ce que ça correspond à la mentalité de Dieu? Est-ce que ça correspond à sa parole? Dieu n'a jamais demandé à quiconque d'offrir ses enfants ou même un être humain. Hein? Jamais. Dieu n'a jamais voulu qu'un village entier disparaisse, mais il est venu. Hein? Il avait comme plan global eh bien, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Bref, nos intentions sont une chose, mais sont-elles réellement spirituelles? Notre logique humaine peut être une chose, mais est-ce que le calcul est bon? Est-ce qu'en acceptant cette promotion au travail, eh bien, ça ne va pas sacrifier ma vie de famille, ça ne va pas sacrifier ma vie d'église? Est-ce qu'en achetant une maison à 70 km de la première église qui vient, je prends forcément une bonne décision? Est-ce que, voilà, c'est toutes ces questions-là. Humainement parlant, ça peut être de bonnes affaires. Mais est-ce que spirituellement parlant, c'en est une? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous dirige, et que nous puissions vraiment voir la main de Dieu dans ce, eh bien, à quoi, dans ce que nous serons appelés à vivre. Alors, on va approfondir un petit peu Moab, la tentation du séjour à Moab. Moab dans la Bible, c'est quoi? Le Moab d'hier, c'est-à-dire le Moab du temps de Ruth, du temps des juges, premièrement, c'est un peuple qui est exclu de l'Assemblée de l'Éternel. Deutéronome, chapitre 23, versets 4 et 7. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'Assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Ce qui veut dire que la condamnation était pour toujours. Les Israélites n'avaient pas à côtoyer les Moabites. Les Moabites n'avaient pas à rentrer sur le territoire des Israélites. Pour quelle raison? En sortant d'Égypte, ouais, Moab a refusé d'aider Israël, hein, qui sortait d'Égypte. Et deuxième raison, ils ont voulu la malédiction du temps de Balaam. On connaît ce texte du livre des Nombres, d'accord? Et à cause de cela, eh bien Dieu a posé ce décret en disant, voilà, le Moabite n'a pas à venir dans l'Assemblée. Alors vous pouvez dire, oui, mais Élimélec avait le droit d'aller en Moab. On peut tirer un petit peu par les cheveux, même si les commandements de Dieu étaient de ne pas côtoyer d'autres peuples. Mais Deutéronome, chapitre 23, verset 6, nous dit, « Tu n'auras souci ni de leur postérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. » La formule est forte. « Tu n'auras souci ni de leur postérité, ni de leur bien-être. » Grosso modo, tu fais comme si Moab n'existait pas. Tu n'as pas à te soucier de ce qui se passe là-bas, tu n'as pas à y mettre les pieds, et tu n'as même pas à y mettre le regard. Moab, c'était un pays des débauches. La descendance de Moab, ça a comme origine l'inceste. Yes. C'est-à-dire, c'est les filles de Lot qui ont enivré leur père pour coucher avec elles. Et donc, la base même de Moab était une base qui était corrompue. Donc, Élimélec, en tant que Hébreu, hein, en tant qu'enfant de Judas, etc., connaissait les commandements. Et il savait très bien qu'en allant à Moab, il enfreignait la loi de son Dieu. Et donc, de ce fait, et je vous le répète assez souvent, qui se mettait en danger, lui ainsi que sa famille. Le mois d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le monde dans lequel nous devons vivre. Hein, et Jésus ne nous appelle pas à nous couper du monde, mais en revanche, il nous appelle à ne pas vivre selon l'esprit du monde. Donc, pour être plus clair dans mon explication, Moab, ce n'est pas le monde physique, nous n'allons pas vivre sur Mars, hein, nous n'allons pas nous terrer dans des grottes, mais Moab, c'est l'esprit du monde dans lequel nous n'avons pas à évoluer. Et dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 16, l'apôtre décrit bien ce qu'est l'esprit du monde. En effet, tout ce qui fait partie du monde, premièrement, c'est moi qui le rajoute ça, hein, les mauvais désirs de l'homme livrés à lui-même, deuxièmement, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, troisièmement, ainsi que l'orgueil inspiré par les richesses et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Donc, le Moab actuel, le Moab du 21e siècle, il se résume, d'après l'apôtre Jean, hein, à trois points. Premièrement, les mauvais désirs de la chair, et je vous renvoie au texte de Paul aux Galates, lorsqu'il parle des fruits de l'esprit, mais qu'auparavant, il parle de fruits de la chair, l'impudicité, le mensonge, etc. Hein, on connaît toutes ces choses-là. Et à partir du moment où on quitte la maison du pain, qu'est-ce qui se passe? On n'arrose plus le fruit de l'esprit. Et puisqu'on n'arrose plus le fruit de l'esprit, puisqu'on ne cultive plus le régime de l'esprit, et que notre loi est régie par ces deux régimes, le régime de l'esprit et le régime de la chair, eh bien, le fruit de l'esprit se rétrécit et le fruit de la chair grandit. Et à ce moment-là, nous perdons notre salut. Nous perdons notre communion avec Dieu. À partir du moment où je quitte la maison du pain, eh bien, je laisse libre recours aux mauvais désirs de la chair. Et quelque part, l'ancien Olivier, qui est dans un baptistère quelque part à Brive, hein, hop, eh bien, il se transforme et il est susceptible de revenir à Nantes. Parce que les fruits de la chair, eh bien, prendront le pas sur le fruit de l'esprit. Deuxième chose que l'apôtre souligne, c'est la soif d'avoir ce que nous voyons par tous les moyens. On fixe, on regarde, et puis, ça, je le voulais. Et c'est ce qu'explique l'apôtre Jacques. Comment naît la convoitise? Comment naît la tentation de ce que l'on voit, de nos sens? On voit quelque chose, on le convoite, il y a une forme de gestation qui se produit dans notre âme, et là, on se dit, comment est-ce que je vais faire pour l'avoir? Comment est-ce que je vais faire pour avoir cette belle guitare que j'aime tant, que je désire tant, etc. Comment est-ce que je vais faire? J'ai pas l'argent, mais je la veux. Je vais prendre un parpaing, puis je vais aller défoncer la vitrine, hein, puis je vais me servir. Et c'est comme ça que la tentation, eh bien, elle se transforme en acte et elle se transforme en péché. Donc, à partir du moment où je regarde les choses, et distinguons bien le fait de les voir et de les regarder, c'est différent. On peut voir toutes sortes de saletés sans les regarder. On peut entendre toutes sortes de saletés sans les écouter. Et de ce fait, eh bien, dans le premier cas, quand on ne fait que les voir, on ne nourrit pas, on ne les greffe pas dans notre cœur. Par contre, quand on les regarde, eh bien, on attise à un moment donné, eh bien, la convoitise. Et dans ces cas-là, eh bien, la convoitise générera le péché. Et troisième chose, c'est l'orgueil, hein. Se dire, je suis quelqu'un, je suis devenu quelqu'un, que dit l'apôtre Jean, nous abusons nous-mêmes. Hein? Parce qu'en réalité, nous ne sommes que des vapeurs, dira l'apôtre Jacques. Voilà, nous ne sommes que des vapeurs, et nous sommes destinés à repartir vapeur, tel que nous sommes nés. Donc, c'est ça l'esprit du monde. À partir du moment où on commence à avoir ces choses-là dans notre cœur, eh bien, ça veut dire qu'on commence à mettre un pied en moi. Alors, en conclusion, un texte dans le livre des Juges. Au chapitre 6, le peuple connaissait une grande famine, au verset 12, et verset 12 à 14. Même époque, même temps, même cas. Livre des Juges, chapitre 6, verset 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Amen. » Temps de famine, puisque Madian venait rafler toutes les récoltes et Gédéon se trouvait dans un pressoir et là, il battait, eh bien, il travaillait de manière à donner la subsistance à sa famille dans le secret. Il était caché dans son pressoir. Et la voix de l'Éternel va retentir. Et dire, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai d'autres plans pour toi. Temps de famine, mais eh bien, moi, je vais me servir de toi afin que le temps de famine cesse. Je vais me servir de toi afin que le temps de famine disparaisse et que la prospérité revienne bien sûr le pays. Et Gédéon aura cette réponse qui m'a frappé tout à l'heure. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent? Où sont tous ces prodiges? Gédéon, je l'aime bien, il est assez franc avec Dieu, il est assez cash avec Dieu. Attends, tu viens me voir, je veux bien, tu viens parler avec moi, t'es Dieu, d'accord, mais j'ai quelque chose à te dire quand même. On nous raconte plein de choses sur toi. Mais concrètement, ils sont où tous? Ils sont où tous ces miracles? Ils sont où? Et Dieu ne va pas se mettre en colère, ne va pas le foudroyer, mais il va lui dire, c'est ta responsabilité, va avec la force que tu as, c'est moi qui t'envoie. Et c'est toi qui feras ces prodiges, entre guillemets, et nous connaissons la suite du récit de Gédéon. C'est un temps de famine dans ta vie. Demain, tu auras un temps de famine. Eh bien, sache une chose, c'est que le Dieu qui a envoyé Gédéon, c'est également celui qui t'envoie. C'est également celui qui te dit, eh bien, va avec la force que tu as. Même si il te reste plus grande énergie parce que, quelque part, tu as été affaibli par la famine, eh bien, continue à aller. Va avec la force que tu as. Et là, eh bien, dans ta vie, dans ton cœur, eh bien, tu connaîtras des prodiges. Tu connaîtras une grâce particulière. Et Dieu se servira de toi, même dans tes temps de famine. Que le Seigneur soit béni. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Que le Seigneur soit béni.